Matthieu 6, et je vais lire les versets 5 à 13. Matthieu 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je te laisse la place sur David pour le message.
Nous commencerons à parler de la prière aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas aborder la prière du Seigneur encore, juste un tout petit peu. Mais nous allons contempler tout simplement la gloire de la prière. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous devenons de plus en plus émerveillés de ce que c'est que prier. Nous le devenons parce que nous comprenons mieux, nous touchons de plus près cette réalité qui est absolument époustouflante de pouvoir entrer en contact avec le Dieu de l'univers comme notre Père. Et donc, nous voulons voir dans ce chapitre de l'évangile de Matthieu comment Jésus nous a introduit dans une manière de prier qui est toute différente. Donc, j'ai trois choses à vous dire à partir des propos de Jésus. Nous voulons entrer dans ses propos, le suivre. Et nous n'allons pas regarder les arbres, mais plutôt prendre un peu de recul pour regarder la forêt. Donc, la première chose, c'est que puisque Jésus vous ramène au Père, il révolutionne votre vie de prière, ce que c'est que prier pour vous. Il révolutionne complètement. Lorsque nous regardons l'enseignement de Jésus sur la prière, nous sommes frappés que Jésus positionne son enseignement sur la prière dans un refus catégorique des manières de prière existantes. Nous voyons, par exemple, dans le verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme. D'abord les hypocrites. Et puis, dans le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme. Pas les hypocrites, mais les païens. Et Jésus, par ses propos, est en train de nous introduire dans un monde différent, nouveau, radicalement différente de toute la prière telle qu'elle existe dans les religions païennes. Ça veut dire le monde entier en dehors d'Israël. Ne soyez pas comme les païens. Pour qui on multiplie les paroles, on fait toutes sortes de gymnastiques pour attirer l'attention de son Dieu, ne soyez pas comme eux. par votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais ne soyez pas comme les hypocrites, qui n'ont pas de vrai contact avec Dieu. Leur seul contact, c'est avec leur auditoire humain. Ils prient devant les hommes pour être vus des hommes, et c'est tout ce qu'ils ont. Mais vous, vous avez une relation de prière secrète où il n'y a que Dieu et où il y a une vraie rencontre avec Dieu comme votre Père. Et ne soyez pas comme, ni comme les vrais croyants en Israël à l'époque. Ça, c'est implicite dans le passage, parce que Jésus nous enseigne, et ça doit être, moi, je crois, choquant pour ceux qui écoutaient, il nous enseigne à prier notre Père. Alors, je vais revenir là-dessus, mais je vais juste vous dire maintenant que c'était une chose qui n'existait pas parmi les Juifs de l'époque, ceux qui étaient pieux et vraiment croyants, et pas hypocrites. On ne priait pas Dieu comme mon Père. Et on parlera de ça tout à l'heure. Mais juste pour dire que Jésus est en train de nous faire venir à notre Dieu d'une autre manière. D'une autre manière. Et c'est ça que nous voulons comprendre. Vous savez que dans les religions païennes, les hommes n'ont pas de relation avec leur Dieu. Leur Dieu est distant, il n'est pas connu. On n'entre pas dans une relation personnelle et intime avec le Dieu païen, comme ce que nous décrit la Bible. De toute façon, on utilise, on exploite, on flatte le Dieu pour obtenir quelque chose de lui, quelque chose. Et la prière, c'est surtout pour avoir quelque chose. Mais Jésus nous introduit dans un monde où le Père est dans le lieu secret, où le Père est là. La prière n'est pas une manière d'obtenir une chose, mais c'est une rencontre avec Dieu lui-même. Le Père voit, le Père récompense. Et cela vraiment est complètement différent. Donc, ça, c'est la première chose que nous voyons, que Jésus est en train de révolutionner vraiment la prière dans sa forme fausse de religion païenne et dans sa forme incomplète du judaïsme pieux. Deuxième point. Nous voyons que notre manière de nous approcher de Dieu est cruciale. Jésus commence ce que nous appelons la prière du Seigneur de cette manière dans le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Et ces premiers mots, Notre Père qui est aux cieux. Nous voyons que ce qui ne vient pas, ce qui vient en premier n'est pas nos requêtes. On ne se précipite pas dans la présence de Dieu pour demander ceci ou cela, mais la première chose, c'est le contact personnel. C'est une adresse directe, c'est une connexion personnelle. Notre Dieu, ça c'est la voix vocative, n'est-ce pas? On ne parle pas de Dieu, mais on s'adresse à Dieu, notre Dieu qui est aux cieux. Pourquoi est-ce qu'on commence comme cela? Parce que la première chose dans la prière n'est pas de demander quelque chose ou de faire quelque chose, mais donc c'est pas d'établir parce que la relation est déjà là. Le Père est là quand j'arrive. Le Père frappe à la porte et j'ouvre. Mais c'est d'entrer dans cette communion, de se rapporter à lui, de s'entretenir. Et je vous demande dans votre vie de prière, est-ce que vous prenez au début suffisamment de temps pour cela? Nous le voyons un peu partout dans la Bible, le fait que on ne vient pas dans la présence de Dieu tout de suite pour demander quelque chose, par exemple, je vous lis juste Daniel, mais c'est vraiment encore plus élevé par Jésus. par le fait que Dieu devienne notre Père. Nous parlerons de ça. Mais Daniel chapitre 9 et le verset 4, Daniel a des choses pressantes à demander. Il aurait pu penser qu'il viendrait et qu'il viderait son sac, pour ainsi dire, qu'il épancherait son cœur tout de suite. Mais non, il dit ceci: « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et lui fis cette confession. » Voilà le début de sa prière. « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Tout cela au début, avant de lui dire quoi que ce soit de confession ou de requête. Parce que Dieu est là. Et dans la prière, la réalité principale, c'est que Dieu est là. Et c'est qu'il est notre Père. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai dû apprendre assez rapidement que quand on allait dans un bureau, par exemple, pour avoir un visa ou quelque chose, dans la culture ivoirienne, quand c'est ton tour, tu ne t'assois pas devant le monsieur qui est derrière son bureau, lui dire « Bonjour monsieur, j'aimerais obtenir un visa. » Pas du tout. Si tu fais ça, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Et probablement cet homme va simplement te regarder sans rien dire. Parce que tu l'as offensé. Tu l'as offensé gravement. On ne vient pas dans la culture ivoirienne devant quelqu'un. Bonjour, j'aimerais. D'abord, quand on s'assoit, on dit bonjour monsieur, comment va votre santé? Et votre famille? Et madame? Et vos enfants? Et une fois qu'on a établi le contact, qu'on lui a parlé, lui, qui est quelqu'un, avec son monde, avec ses réalités, on peut maintenant demander son aide. Et par cet aspect, la culture ivoirienne est un peu comme nous devons l'être avec Dieu, n'est-ce pas? Notre approche est tout importante parce que Dieu est là et il est Dieu et il est Père. Troisième et dernier point. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous savons approcher de celui qui est Père et qui est aux cieux. Jésus nous parle de ce double aspect de celui que nous, à qui nous adressons nos prières. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». C'est une manière de dire qui est Dieu. Qui est Dieu transcendant. Alors, je vais prendre ces choses à l'inverse. Je vais vous parler de aux cieux d'abord, notre Père qui est aux cieux, et puis je veux rester ce matin sur cette question de Dieu notre Père et comment ça change notre manière de prier. Juste courtement, nous prions à celui qui est aux cieux, qui est céleste. C'est-à-dire, quand je viens devant Dieu, je parle à mon Père qui est transcendant. Le psaume 145 nous dit que sa grandeur, la grandeur à qui vous priez quand vous venez devant lui, sa grandeur est insondable. Il est impossible que vous ayez la moindre idée de combien le Dieu de l'univers, le Créateur, celui qui était, qui est et qui sera, celui qui d'éternité sans commencement jusqu'à éternité sans fin est Dieu. Celui qui tire son être de lui-même, celui qui parle et les galaxies sont envoyées dans l'espace. Celui qui est le juge de tous les hommes, qui a pitié de qui il veut et qui endurcit qui il veut. Le Dieu dans la Bible dit que les nations sont comme un grain de poussière devant lui. Les nations sont néant et moins que néant, tellement, pas tellement qu'il est grand, mais tellement il est transcendant, c'est-à-dire autre. Grand n'est pas suffisant. On ne saurait pas dire. Et c'est pour cela que nous savons que les anges, ces êtres glorieux et puissants, devant la face de Dieu, se cachent le visage. Il n'est pas possible que la créature, quelque puissant qu'il soit, regarde le Dieu de l'univers directement. Il est simplement autre et toutes nos conceptions sont pitoyables. À qui voulez-vous me comparer? Dit Dieu dans Ésaïe. À quoi ou à qui voulez-vous me comparer? Je suis celui qui ne peut pas être connu complètement par la comparaison. Il vaut mieux utiliser le contraste. Il n'est pas comme ça. Et c'est pour cela qu'en Ecclésias chapitre 5, quand l'Ecclésias nous enseigne à adorer, il dit ceci. Dans les versets 1 et 2, il dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche donc devant Dieu et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Et voilà la raison. « Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Et cela voulait dire que Dieu est céleste, il est autre, il est transcendant et tu es terrestre. Limité, créature. Et lorsque je prie et vous priez, nous devons avoir, comme dans le passage que Joël a lu, qui montre bien ça, tremble devant lui, terre entière. Donc, quand Jésus nous enseigne, nous pousse, nous aide à savoir que nous prions à notre Père qui est dans les cieux, il veut que nous nous rendrions compte que nous sommes dans la présence de celui qui est céleste et transcendant. Probablement, il évoque aussi la largesse de Dieu, la prodigalité de Dieu. Parce que quand nous voyons le mot céleste dans le Nouveau Testament, souvent, cette idée de le ciel n'est pas simplement un endroit de grandeur, mais aussi de lumière, de largesse, de bonté. Et donc le Père céleste est celui qui donne beaucoup mieux et beaucoup plus que le Père terrestre qui ne donne pas un serpent quand son enfant demande du pain. Et lorsque, juste pour appuyer ça, ensuite je vais m'arrêter sur ce point au sujet de notre Dieu qui est aux cieux. En Éphésiens chapitre 3 et au verset 14, Paul dit ceci en priant. Il dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille ou toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » Et donc vous voyez ici que le Père aux cieux, c'est celui qui donne selon la prodigalité, selon la largesse transcendante de sa gloire. Donc, lorsque nous venons auprès de Dieu dans la prière, nous nous réalisons immédiatement et intimement dans la présence, dans la rencontre. Vous ne pouvez pas mettre de la distance entre vous et Dieu quand vous vous inclinez et vous priez dans le nom de Jésus, parce qu'il est là. Et il est ce Dieu céleste et il vous voit et il vous entend. Mais Jésus dit que nous devons prier notre Père qui est aux cieux, notre Père. Et c'est là que nous devons nous arrêter. Notre problème souvent, c'est que nous prions à Dieu, n'est-ce pas, tout court. Je confesse, j'avoue que souvent Ma conception, ma pensée n'est pas suffisamment transformée par l'évangile. C'est pas seulement christianisé. Et je suis un peu païen par les bords, parce que je prie à Dieu. J'ai remarqué quand j'étais pasteur de la jeunesse dans une église, que les jeunes qui n'étaient pas encore convertis, dans leur prière, ils disaient souvent « Dieu ». Il disait Dieu. Mais les jeunes qui étaient convertis, souvent, ils disaient père. Ou ils avaient d'autres termes d'affection pour le Seigneur. Mais donc, Jésus est en train de donner aux Juifs à cette époque et à nous une révélation révolutionnaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et maintenant c'est le moment d'expliquer, que on ne trouve nulle part dans les prières du judaïsme que nous avons, de la part des rabbins et autres dans l'Antiquité, les prières où le croyant dit mon Dieu ou notre Dieu. La voix vocative. On a quelques prières où quelques prières, c'est extrêmement rare, où on trouve le mot Père, mais pas dans le sens vocatif, où on s'adresse au Père, mais on parle de Dieu qui est le Père de son peuple. Cela, on trouve, mais on ne s'adresse pas personnellement à Dieu en osant lui dire, l'appeler Père. Ça, c'est vraiment autre chose. Et même le concept Père de la nation, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on appelait Houphouët-Boigny, le président, le Père de la nation. Mais ça ne voulait pas dire que n'importe quel Ivoirien pouvait s'approcher du président et dire, Papa, je voulais te dire telle chose. Donc Jésus est en train de nous dire quelque chose d'absolument différent. Dans Galates chapitre 4, Joël a lu ce passage dimanche passé dans le culte, mais l'apôtre nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. La Bible parle du salut comme si le salut est tout compris dans l'adoption. Afin que nous recevions le salut, non, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Le mot Abba, c'est le mot araméen qui est le mot qu'un enfant utilise dans l'intimité, d'une manière avec affection pour parler de son papa. Donc, nous voyons ici que le fait que nous recevions l'adoption est lié au fait que l'esprit d'adoption est venu dans notre cœur, envoyé par le vrai Fils. En d'autres termes, la Bible nous enseigne que notre statut de fils est lié au statut de fils de Jésus. On ne peut pas comprendre l'adoption sans comprendre cela. Souvent, nous pensons, oui, on est devenu fils, comme ça. Non, ce n'est pas ça. Je vous lis encore Romains 8. Et donc, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais je vous ai donné une illustration il y a quelques mois dans un sermon. Je vais répéter rapidement. Imaginez une fille qui a grandi orpheline, dans des foyers d'accueil nombreux, passer d'un foyer à l'autre, comme c'est souvent le cas avec ses enfants, et qui n'a jamais eu l'expérience d'être l'enfant de parents qui l'aimaient, connaissait pas. Elle s'est convertie, elle a rencontré un garçon converti qui, lui, a grandi dans une famille vraiment exceptionnelle, où il était vraiment un fils bien-aimé de ses parents. Et donc les deux se sont mariés, cette fille et ce garçon. Et les parents du garçon se sont réjouis en disant, la fille que nous n'avons jamais eue, parce qu'ils n'ont pas eu de fille, que de garçon, la fille que nous n'avons jamais eue, nous l'avons maintenant. Et elles ont pris cette fille comme leur fille de naissance, mais vraiment, jusqu'au point où les gens qui regardaient cette famille n'arrivaient pas à savoir si c'était le garçon qui était l'enfant de ce couple âgé ou si c'était la fille qui était la fille de ce couple, parce que elle était traitée vraiment avec la même intimité, le même amour paternel et maternel que le garçon. Et elle, sa vie en était bouleversée. Elle a enfin su ce que c'était que d'être un enfant. Et vous qui êtes parents, vous savez ce que c'est, que vous aimez votre enfant comme vous n'aimez personne d'autre. Que cette relation parent-enfant est vraiment tout particulier. Tout particulier. Vous ne pouvez pas comprendre avec quelle sollicitude, avec quel souci la maman regarde son enfant ou le papa aimant regarde son enfant. Vraiment. Et c'est cette relation qu'elle n'a jamais eue. D'avoir vraiment cela. Mais un jour, elle en parlait à son mari et son mari lui a dit, j'aurais pu te le dire avant de t'épouser. Je savais que ça allait se passer. En fait, j'aurais pu te dire, on va s'épouser bientôt, mais quand je t'épouse, tiens-toi bien, parce que en t'épousant, je vais te faire entrer dans la même relation que j'ai avec mes parents. Tu vas prendre la même position par rapport à mes parents que moi j'ai. C'est un des bienfaits que je te donne en prenant comme mon épouse. Je me donne à toi, mais je te donne aussi ma relation avec mes parents. Et tu vas entrer dedans et tu vas goûter de ce que j'ai su depuis toujours. Et donc c'est ça l'adoption, que le Christ nous fait entrer dans sa relation avec le Père. Non pas que nous sommes des fils natifs, éternels et divins, mais nous venons dans la même relation par adoption. Si je peux juste vous lire, parce que c'est trop, presque trop, oui, c'est beaucoup trop grand pour, et bon pour croire, mais Jésus nous dit ceci en Jean chapitre 17. Il dit, et moi, il parle à son Père, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette fille, dans mon illustration, pouvait dire, les parents m'aiment comme ils t'aiment, mon mari. C'est ça que je voulais vous dire. Que Christ nous fait entrer dans la relation où il peut nous dire, le Père vous aime avec cette même sollicitude, cette même intimité que le Père aime le Fils de Dieu. Nous terminons donc en disant ceci. Lorsque nous prions et nous disons Notre Père qui es aux cieux, ça veut dire quatre choses qui forment notre manière de prier. La première chose, c'est proximité. Lorsque nous prions, nous nous rendons compte que notre Dieu et notre Père est plus proche de nous, géographiquement, oui, mais relationnellement, de par son souci, de par la manière dont il est impliqué dans ta vie, il est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus intéressé à ta vie, beaucoup plus décollable, incollable, pardon. Il reste là. Que n'importe quel humain, même votre mari, même votre femme, même votre enfant humain. Nous voyons cela quand Jésus nous dit dans ce passage que lorsque nous prions le Père qui est là dans le secret, et le Père qui voit dans le secret nous rend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a dans ma vie, une réalité qu'aucun être humain ne peut accéder là-dedans, parce que c'est trop proche à moi. C'est trop impliqué dans ma vie. Il y a des endroits dans ma vie que même ma femme ne peut pas venir aussi proche que cela. Et le Père qui est aux cieux est là, impliqué dans cela, toujours, sans jamais se distancer de moi. C'est le Père qui est là où un être humain ne peut pas être. Je ne sais pas pour vous, mais je suis assez bouleversé par cela. Quand je prends mon attitude de père et je pense la manière dont je suis impliqué dans la vie de mes enfants, dont rien ne peut m'arracher de penser à eux tous les jours, de prier pour eux, de vouloir leur bien comme je ne peux pas vouloir le bien d'un enfant qui n'est pas mon enfant. Et je pense que Dieu est impliqué dans ma vie, que ça c'est la sorte de relation dans laquelle il m'a tiré par Jésus-Christ. Je prie de manière différente. Et toute cette distance que vous avez dans votre tête vis-à-vis de Dieu, c'est ça qui fait que vous ne priez pas. Si vous pensez que Dieu est distant, Dieu n'est pas soucieux, Dieu n'est pas impliqué, c'est un détail, il est trop grand pour s'intéresser, vous ne comprenez pas la relation père-fils. Est-ce que vous, en tant que parent, quelque chose dans la vie de votre enfant est trop petit pour que vous vous intéressiez à cela? La gloire d'être parent, c'est que je m'intéresse à tout. Tout ce qui touche mon enfant me touche. Donc c'est ça la première chose que nous devons saisir. La deuxième chose, c'est valeur. Premièrement, proximité. Deuxièmement, valeur. Nous voyons dans le verset 8, pardon, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et peu après ça, dans le même sermon, Jésus dit dans le chapitre 6, versets 26 et 27, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus veut nous enseigner que la relation père-fils est distinctive par le fait que, oui, nous avons une valeur toute particulière pour lui. Comme je dis, je vois un enfant dans le supermarché qui est perdu, qui s'est égaré de sa famille. Et je vois ce petit bout de chou, 3 ans, qui vient de se rendre compte qu'il a perdu sa famille. Et là, ça me touche, vraiment. Mais ça ne me touche pas du tout, comme lorsque je me rends compte que mon enfant s'est égaré. Et je ne sais pas où il est dans le supermarché. Je vous assure que là, parce que je l'ai vécu plus d'une fois, je panique. Parce que sa valeur pour moi, ce qu'il vaut, ce qu'il signifie, son importance est tellement grande pour moi, et c'est ça la relation parentale. Et c'est ça que Jésus veut dire en disant: votre Père céleste nourrit les oiseaux, mais vous, parce que vous êtes les enfants, vous valez beaucoup plus. Et lorsque nous prions souvent, nous l'oublions. Nous sommes très fidèles, des serviteurs fidèles qui prient à Dieu le Maître, mais nous oublions que nous avons été tellement rapprochés à Dieu comme notre Père. Troisièmement, proximité, valeur. Je ne savais pas quel mot mettre, mais je vais mettre le mot bénédiction. Quand nous regardons toutes les choses que Jésus nous commande de demander, dans cette prière. Demandez votre pain quotidien. Ça veut dire tout ce qu'il vous faut matériellement. Demandez le pardon de tous vos péchés. Demandez la protection de toute tentation. Demandez la délivrance de tout mal. Demandez à être impliqué dans son royaume, son nom, sa volonté. Demandez tout ça et ça et ça et ça. Nous voyons que Dieu veut, le Père veut que nous soyons dans une condition bénie de sa largesse. Et ça, c'est distinctif de toute relation parentale. Si je pourrais dire une chose qui est vraie par rapport à l'attitude d'un père, par rapport à ses enfants, c'est que moi, je tiens à ce que mes enfants soient dans une situation et une condition bénie. S'ils ne sont pas dans une condition où ils ont ce qu'il leur faut, où ils sont contents, Moi, je suis pas à l'aise. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par définition, le fait que Dieu soit votre Père, c'est qu'il veut que vous demandiez et que vous receviez. C'est ça le sens, dans le même sermon, quand nous arrivons au chapitre 7, de ces paroles où Jésus dit ceci. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on reçoit tellement? Pourquoi est-ce qu'on est tellement mis dans une situation, une condition bénie? Il explique. Car quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner. Vous savez donner, implicitement, en tant que parent, en tant que père, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui lui demandent. Vous voyez la logique? La logique, c'est qu'un Père qui est céleste et célestement parfait, il tient à ce que vous receviez tout ce qui est nécessaire. Et souvent, notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à croire que ça puisse être vrai. Nous voyons Dieu comme quelqu'un à respecter, n'est-ce pas? Mais on a du mal à croire qu'il nous regarde comme ça. Nous n'avons pas été simplement justifiés comme le fils prodigue voulait qu'il soit justifié sans être adopté. Et c'est notre problème. Nous voulons être justifiés sans être adoptés. Prends-moi comme un de tes serviteurs. Accepte-moi, mais avec une relation qui est un peu distante. N'est-ce pas? Je suis comme un de tes serviteurs que tu aimes bien, que tu acceptes, qui est en règle avec toi. Mais le Père dit non. Tu es mon fils, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Je ne peux pas te regarder comme un de mes serviteurs. Et c'est ça que nous devons faire dans la prière, n'est-ce pas? Nous devons voir que le salut, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand. Il nous amène dans cette relation que le Fils a avec lui. Et la dernière chose, proximité, valeur, bénédiction et participation. Dans les versets 9 et 10, les premières requêtes que nous prions concerne tout ce monde de Dieu. Ce n'est pas des requêtes pour moi. Il dit de prier d'abord que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si vous comprenez cela, parfois on le comprend très mal. Ah oui, je ne dois pas être égoïste, il faut penser à Dieu d'abord. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça que la prière veut dire. La prière signifie que Dieu, comme il nous aime comme un père, et il nous amène dans son monde. Mais c'est ça. C'est ça être père. Je vous donne un exemple. Mon père était donc prof au lycée et il était coach de sport. Et dans les lycées américains, les coachs sont connus par tout le monde. Tous les vendredis, match de basket. Il y a entre 1000 et 2000 personnes présentes au match tous les vendredis. Pratiquement tous les étudiants sont là avec leurs parents Et c'est le moment fort du week-end. Et c'est mon papa qui est au centre de ce moment parce que c'est lui le coach de l'équipe qui joue et pour lequel on applaudit. Alors, on avait une blague dans notre famille et c'est que il est impossible de sortir quelque part sans rencontrer quelqu'un qui connaît papa. On va au supermarché, on entend coach! C'est un ancien élève il y a 10 ans. Oh. Hey, comment vas-tu, coach? Et un jour, nous sommes allés dans un autre état des États-Unis. Nous sommes allés en Floride à quelques 10 heures de chez nous. Et je ne sais pas quel frère ou sœur, un de mes frères ou ma sœur, a dit, dis donc, voilà, nous sortons quelque part où personne ne connaît papa. Et quelques moments plus tard, on entend en Floride, coach! Mais donc, j'ai grandi en tant que petit enfant dans un monde où une grande partie de ma fierté et mon importance et mon monde, c'était le monde de mon papa. Le vendredi, j'étais au centre de tout cela, je m'asseyais à côté de lui pendant le match et il m'amenait aux entraînements avec les joueurs. Et moi, je pouvais les regarder. Il m'apportait dans son monde. Et je faisais partie. Donc, ça veut dire que mon monde n'était plus juste le monde d'un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans ne fait pas partie des trucs grandioses comme ça. Mais mon monde, j'avais des trucs grandioses dans mon monde. Des milliers de gens qui applaudissent et moi, je fais partie de ça d'une manière, n'est-ce pas? Et quand vendredi venait, on était sur la pointe des pieds, est-ce que papa va gagner? Parce que je faisais partie de tout ça. Mais c'est ça la vie d'un enfant, être amené dans le monde de son père, n'est-ce pas? Et de jouir. Et le Père nous fait cela, il nous amène dans son monde, dans la grandeur et de la gloire de ses projets. Et donc, quand nous prions, il y a tout ça. Alors que le Seigneur nous aide à mieux comprendre la prière, donc, et ce que ça veut dire de prier comme un enfant de Dieu.
Un moment de prière justement pour répondre à ce message que quelqu'un d'entre nous puisse conduire dans la prière. Je termine.